Toi, ça va en ce moment? Parce que ben, tes cheveux que tu coupes plus, ta barbe que tu coupes plus, ça commence à être long tout ça quand même.
T'inquiète, Mimi. Ben, tu sais bien, de toute façon, à Noël, il faut que je fasse le Père Noël.
Il s'agit aujourd'hui d'ouvrir la bonne porte, parfois discrète, petite, invisible, si le regard ne prend pas le risque de se perdre. C'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui avec mon invitée, Carole Bidot, alias 13. Bonjour Carole.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous exposerez vos photographies pour la première fois le 16 et 17 décembre, ainsi que le 6 et le 7 janvier à la Maison Rigolote à Laval. On en parle dans quelques instants. Dans la suite de l'émission, on va au studio de Laval avec Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Tu nous y emmènes car des visites étaient organisées la semaine passée à l'occasion des 25 ans des illuminations de la ville. Stéphane Piau organisait la visite et puis tu nous racontes tout ça dans quelques instants. En studio, Soazic Manac-Chauvel nous rejoint pour la fin de cette émission. Elle nous fera sa chronique, un autre écho de l'écho. Mais pour commencer, Lucie, tu nous fais un petit point sur les actualités du coin.
Et oui, avec plaisir. Pour commencer donc, mauvaise nouvelle pour les amoureux du voyage en voie ferrée et pour ceux qui voulaient réduire leur utilisation des transports individuels, la SNCF envisage de supprimer un des 8 arrêts quotidiens à Laval vers Paris d'ici à 2025. Ça veut dire que les trains, au lieu de faire 8 allées et 8 retours Paris-Laval, n'en feront plus que 7. Les élus du conseil départemental de la Mayenne, dont Olivier Richefou, président UDI du département, comptent travailler ensemble pour que ça ne se fasse pas. Pour un peu de contexte, jusqu'à il y a un an et demi, la SNCF avait un contrat avec le département qui avait sanctuarisé le nombre d'arrêts, mais ce contrat n'a pas pu être renouvelé et c'est ce qui laisse aujourd'hui la liberté à la SNCF de modifier les arrêts comme elle le souhaite. Autre chose, il y aurait une baisse de 500 000 euros du budget RSA et des contrats aidés dans le département. Olivier Richefou, à nouveau, explique dans les colonnes du Ouest France qu'il s'agit de parier sur l'expérimentation des aides sous conditions, ces fameuses 15 heures d'activité par semaine qui ont beaucoup fait parler d'elles. À savoir qu'aujourd'hui, c'est près de 900 bénéficiaires qui sont concernés par ce nouveau dispositif dans le secteur Laval-Ouest et que l'idée est d'atteindre 1600 bénéficiaires en 2024. Christine Dubois, conseillère départementale à l'opposition dans le groupe pour une Mayenne écologique et solidaire, exprime quant à elle son inquiétude. Elle explique voir, je cite, à nouveau, des situations de bénéficiaires avec de plus en plus de difficultés dont une importante proportion est éloignée de l'emploi. Fin de citation. Elle ajoute d'ailleurs un questionnement sur cette expérimentation et sur l'efficacité qu'elle aurait à faire véritablement diminuer le nombre de bénéficiaires du RSA.
Est-ce que tu peux nous faire un petit point agricole maintenant, Lucie ?
Tout à fait, Margot. Au vu des importantes pluies qui ont eu lieu ces deux derniers mois, la préfecture de la Mayenne communique que les exploitants vont pouvoir demander, avant le 31 décembre, une dérogation à la couverture hivernale des sols et aux périodes d'épandage d'effluents. Comme d'habitude, pour plus de détails et pour déposer les demandes de dérogation, ça se passe sur le site de la préfecture mayenne.gouv.fr en tapant « dérogation épandage » dans la barre de recherche.
Et puis comme d'habitude, pour conclure ces brèves, un petit rendez-vous Lucie.
Avec plaisir, mais cette fois-ci ce n'est pas culturel par contre. En fait, la ville de Laval et le Conseil économique, social, environnemental, ou CESER pour faire plus court, des Pays de la Loire, ont travaillé ensemble depuis octobre 2022 sur la place à donner à l'arbre en ville et à la campagne. Il y a eu 17 débats publics en tout depuis un an, dans les 5 départements des Pays de la Loire, et il vous propose donc un rendez-vous demain pour restituer le rapport sur l'arbre en ville et à la campagne. Et pour ceux qui le souhaitent, c'est donc jeudi 14 décembre à 20h à l'hôtel de ville de Laval.
Carole Bidot, vous êtes avec nous aujourd'hui, votre nom d'artiste 13. C'est votre première exposition photo, on pourra la découvrir à la Maison Rigolote à Laval. C'est la deuxième édition de cette exposition appelée Petit Format, qui regroupe à peu près une vingtaine d'artistes, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, absolument.
Et donc, ce qui vous a amené vers la photographie, vous, c'est assez récemment en fait que vous avez commencé. C'est un détail dans la ville, racontez-nous.
Oui, bah, je me promenais un petit peu au hasard des rues, alors j'adore marcher la nuit dans les rues. Parce qu'il y a une façon d'appréhender les couleurs, les détails qui est complètement différent par rapport au jour. Et donc je déambulais un petit peu comme ça et voilà, une porte m'a attirée. Pourquoi, on ne sait pas. Du coup, je l'ai prise en photo, elle était juste incroyable. Enfin, voilà. Pour moi, tout de suite, j'ai vu un truc un peu mystique, un peu spirituel, quelque chose, enfin, très fort au niveau de l'imaginaire. Une sorte d'énergie un petit peu inexplicable. Voilà, donc je l'ai prise en photo et puis j'ai continué ma petite déambulation et j'ai vu une deuxième, puis une troisième. Et voilà, ça a commencé comme ça. Le lendemain, j'ai regardé un petit peu les photos que j'avais prises. À nouveau, j'ai ressenti cette énergie incroyable et j'ai commencé à vouloir un petit peu les retoucher pour justement faire ressortir ce côté-là, le côté vibration.
Ce que vous avez ressenti.
Voilà, le côté émotion. Et à la fin de la première retouche, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se passer. Et de là, bah, ça a continué. Donc, je déambule encore, je prends encore d'autres photos et voilà.
Et alors, cette toute première photo, ouais. C'est quand qu'elle a été prise ?
Il y a, je sais pas, peut-être 2 mois. C'est vraiment très récent.
D'accord. Ouais. Et donc, vous le disiez, vous aviez une manière de retravailler ces photos. Est-ce que vous utilisez une technique particulière ? De quoi vous vous inspirez peut-être même ?
Non, c'est vraiment, moi, je pars vraiment de l'émotion que ça me procure et cette sorte de vibration ou d'énergie, c'est que j'essaye de mettre en couleur en fait. C'est un gros travail sur la couleur et la lumière. Donc je joue un peu avec ça, avec les ombres, la vivacité, enfin voilà, un petit peu cette histoire-là. Et puis je vais remettre en couleur les énergies. Donc en fonction des portes, ça va être plus ou moins coloré, plus ou moins joyeux, en fonction de la personnalité de la porte.
Et alors justement, vous nous disiez que vous promeniez la nuit. Est-ce que c'est systématiquement la nuit ? Est-ce que la nuit a quelque chose de particulier ?
Ouais. Bon, après je me promène aussi en journée, mais c'est vrai que j'adore ça. Déambuler comme ça un petit peu au hasard des rues, beaucoup dans le Vieux-Laval parce que je trouve que c'est charmant, enfin c'est très joli. Et voilà, donc je le fais de temps en temps, j'aime bien errer un petit peu, m'égarer. Et donc maintenant, mon œil est un petit peu attiré, je vois encore plus de détails qu'avant. La nuit en fait, ça rend un côté, au niveau de l'image, il y a une profondeur qui se met, l'appréhension des couleurs est complètement différente. Alors s'il pleut un petit peu, il y a une brillance qui vient se mettre, il y a une atmosphère, enfin il y a vraiment quelque chose qui est très différent de la journée. Donc ça, c'est ce que j'aime bien.
Puis il y a l'éclairage aussi, sans l'éclairage, doute, selon l'endroit absolument. Où se trouve cette porte, justement.
Justement, sur les jeux de lumière, sur certaines photos, le fait qu'il y ait un éclairage, ça amène vraiment quelque chose en plus. Donc voilà, j'aime beaucoup.
Et donc, il y a la lecture qu'une personne extérieure peut avoir de cette photo. Ouais. Mais peut-être que vous reliez aussi les photos à quelque chose de plus personnel, ces moments où vous décidez de sortir sans objectif précis, peut-être, de chez vous. Peut-être que chaque photo a aussi une histoire par rapport à ce moment où vous décidez ou pas du tout.
Non, c'est vraiment la rencontre vraiment avec la porte en elle-même. Quelque chose va m'attirer et je vais ressentir quelque chose à ce moment-là. C'est vraiment. Alors les portes, elles sont particulières. Hein, c'est pas des portes classiques. Elles sont taguées pour la plupart. Donc elles dégagent quelque chose par elles-mêmes d'assez fort. Et voilà. Donc c'est ça qui m'interpelle. Ce qui m'intéresse aussi dans le concept, c'est qu'elles sont invisibles, elles sont éparpillées, elles sont disséminées, alors parfois dans des ruelles sombres, dans des impasses où on n'irait pas. Alors justement, maintenant, moi, j'y vais encore plus. Et donc, c'est ça, c'est la confrontation, c'est montrer quelque chose qui est invisible. Et puis, c'est des portes, c'est un monde ouvert sur l'imaginaire, sur un monde spirituel ou autre, enfin, qui est un peu infini. Donc ça m'intéresse beaucoup.
Et donc, on pourra découvrir vos photos en petit format. C'est le principe de l'exposition. Est-ce que ça influence le choix des photos que vous avez décidé d'exposer ? Parce qu'à la base, vous ne les avez pas pensées forcément pour un petit format.
Ça a été une contrainte, effectivement. Après, qui est intéressante aussi, où il y a eu une réflexion de quelle taille, quel format. Parce que c'est déterminé par l'emplacement qui m'est attribué, en fin de compte. Donc, il y a des contraintes un petit peu. Alors, ça n'a pas influencé le choix de la photo, la sélection en elle-même. Mais plutôt au niveau de l'assemblage, parce que je ne peux pas tout présenter. Donc il y a au niveau des couleurs, qu'est-ce qui s'associe ? C'est plutôt un jeu comme ça de choix en fonction des couleurs qui vont s'associer ou pas.
Et donc il y aura la petite histoire, un petit texte qui va accompagner la photo pour mieux l'appréhender également ?
C'est ça, un petit texte qui explique un petit peu la démarche, la symbolique aussi, puisque les portes ont une symbolique, à mon sens, qui est assez forte. C'est un passage, un passage, un mystère entre deux mondes, deux réalités, deux états. La lumière, l'obscurité, la conscience, l'inconscience, enfin voilà, la spiritualité, le profane, enfin il y a énormément de choses. C'est un univers qui est très riche et qui est surtout propre à un imaginaire fou, quoi.
C'est vrai qu'à travers les couleurs que vous choisissez, il y a quelque chose d'un peu onirique en fait qui se dégage de cette photo.
Absolument, onirique, voire spirituel. Alors parfois un peu, il y a un côté parfois un peu dark, limite punk, mais qui m'intéresse aussi. Alors les réactions en plus entre les différentes personnalités, puisque finalement elles nous renvoient face à nous-mêmes, c'est notre propre perception, notre propre histoire, notre propre imaginaire qui va se déclencher, et chacun a une interprétation complètement différente. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'il y a des gens qui vont être surpris, avoir peur, dire non, celle-là, jamais je l'ouvrirai. D'autres, si, on y va. Enfin, voilà. Donc ça, je trouve ça génial. C'est fou parce qu'elles sont réelles, elles existent physiquement, réellement. Elles sont juste incroyables. Enfin, c'est fou. Vraiment, cette histoire, c'est une histoire folle.
Et justement, vous m'avez parlé de ces réactions de ces personnes. Vous avez déjà pu montrer un petit peu à certaines personnes vos photos. Et vous m'avez parlé justement de cette différence de perception des gens. Chaque personne, en fait, a un ressenti très différent face à ces photographies.
C'est très personnel. Alors, il y a des ressemblances. Parfois, il y a des réactions qui sont ressemblantes. Et parfois d'autres qui vont complètement être à l'encontre. Et ça m'intéresse beaucoup, la confrontation, le questionnement. Pourquoi la personne va avoir presque un sentiment de rejet? Alors il y en a qui m'ont dit ça fait peur, c'est un peu angoissant. Des réactions qui seraient presque négatives, mais pas pour moi, puisque ça interpelle quelque part, ça déstabilise, ça mène à une réflexion. Et puis d'autres personnes qui vont être plutôt vraiment dans le côté spirituel, onirique, qui vont tout de suite se projeter. Il y a un côté Alice un peu au Pays des Merveilles, un petit peu aussi, enfin voilà, une part d'onirisme important. Donc je trouve ça génial que les réactions elles soient aussi variées sur une seule et même image. C'est génial.
Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le public aura l'occasion d'échanger avec vous lors de ces différents temps d'exposition. Je le rappelle, le 16 et 17 décembre, ainsi que le 6 et le 7 janvier. Pour vous, c'est important de pouvoir être présente justement et d'échanger avec ces gens, de présenter aussi avec vos mots cette exposition.
Oui, c'est ça. Alors déjà, ce qui est important, c'est que ça va être la première confrontation. Donc ça, j'ai hâte. Alors, j'ai un peu peur, mais j'ai hâte quand même. Mais c'est ça, c'est l'idée de la confrontation, et c'est plus voir justement les réactions. Quelles vont être les réactions des gens? Est-ce que je vais retrouver ce que j'ai pu observer déjà? Enfin, voilà, de la surprise, du recul, enfin, un étonnement. Donc c'est vraiment ça que je vais aller chercher. Donc partager et discuter avec les gens de... qu'est-ce qu'ils ressentent et pourquoi ils ressentent ça et pourquoi c'est fort ou pas fort. Enfin, voilà. Ça m'intéresse beaucoup.
Et donc justement, j'avais envie de vous demander, en tant que jeune artiste, c'est une première exposition, donc ça met un peu le trac, mais en même temps c'est stimulant. C'est aussi pour ça peut-être qu'on a un moment envie de créer, c'est aussi pour le montrer et créer un moment d'échange.
Oui, alors certainement, je vous avoue que je n'ai pas réfléchi profondément à cette question-là. Pour ma part, ça arrivait un petit peu par hasard, toute cette histoire. C'est vraiment, comme je vous disais, je marchais dans les rues. Un ami qui ne connaissait pas Laval m'avait dit un jour, il faudra que tu m'envoies des photos de cette ville parce que tu m'en parles tant, il faudra que tu me montres. Et donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Pour moi, c'est une rencontre. C'est un peu un appel, comme si j'avais été attirée vraiment. Il y a plein de hasards qui se sont mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire cette exposition, c'est une chance, mais c'est vrai que c'était pas un projet réfléchi, je m'étais jamais dit allez, je vais aller prendre des photos, je vais faire une expo, ça arrive un petit peu comme ça par bonheur, et c'est génial.
Est-ce que peut-être vous avez déjà des idées d'une suite, d'autres pistes, d'autres détails de la ville, ou totalement autre chose sur lequel vous aimeriez travailler par la suite?
Là, du coup, maintenant, ça a déclenché quelque chose d'énorme que je contrôle pas encore totalement, mais l'idée, c'est de poursuivre le projet, d'aller chercher d'autres portes, d'aller vraiment les chercher, parce que c'est difficile de les trouver, de les mettre en avant, de les retravailler. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est faire le plus possible d'expositions. C'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la confrontation dont on parlait tout à l'heure. Alors, le projet fou, ce serait d'aller jusqu'au Japon. Ça, j'adorerais aller là-bas.
Est-ce qu'il y a des portes particulières, peut-être aussi au Japon? Là, je pose une question, je ne sais pas.
Oui, il y en a, si on regarde un petit peu les images. Alors après, la symbolique de la porte, culturellement parlant, dans beaucoup de civilisations, c'est un symbole très fort, notamment en Asie. Pas que, mais notamment là-bas. Et puis c'est ce côté un petit peu bousculé, j'aimerais beaucoup voir les réactions au Japon. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Carole. Donc on pourra venir vous rencontrer et découvrir votre travail, je le rappelle, le 16 et 17 décembre ainsi que le 6 et le 7 janvier à la Maison Rigolote. Il y a des horaires particuliers peut-être d'ailleurs.
C'est les après-midi, donc le samedi c'est 14h30 jusqu'à 22h, le dimanche 17 c'est de 15h à 18h, et les 6 et 7 janvier c'est pareil, 15h-18h. et je vous attends avec plaisir.
On a hâte. Merci beaucoup, Carole.
Merci à vous.
Et donc, je vous propose désormais une petite pause musicale. Lucie, tu nous as amené quelque chose, je crois.
Eh oui, mais j'ai pas tellement eu le temps de vous le présenter. Et comme on est tous un peu pressés, on va l'écouter tout de suite. C'est pas le temps d'Hippocampe Fou.
Pas le temps. Pas le temps de se dépayser. Pas le temps de se stabiliser. Pas le temps de préparer des repas équilibrés. Et pas le temps de dédramatiser. Pas le temps de jouer, pas le temps de répéter. Pas le temps d'échouer, pas le temps de progresser. Pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de soupirer. Pas le temps de bronzer, pas le temps de roupiller. Pas le temps de prendre un bain, pas le temps de se laver les dents. Pas le temps de se garer vraiment bien. Pas le temps d'attendre, pas le temps d'apprendre. Pas le temps d'écouter des morceaux jusqu'à la fin. Pas le temps de fêter nos annives, pas le temps d'assister aux manifs. Pas le temps d'être indécis, pas le temps d'être précis, pas le temps de préparer le débrief. Pas le temps d'être un peu solidaire, pas le temps pour des préliminaires. Pas le temps de faire la paix, pas le temps d'aimer la terre, pas le temps de percer des mystères. Pas le temps de laisser mijoter nos rêves dans la grande ours. Pas le temps de vérifier nos sources, faut gagner la course. Pas le temps d'être poli, pas le temps d'être incompétent. Pas le temps de réfléchir au fait qu'on n'a pas le temps. Pas le temps de lire, pas le temps de rire, pas le temps de jouir, pas le temps de fuir, pas le temps de vivre.
Lucie, cette année, c'est comme une première fois pour toi. C'est ta première rencontre avec les Illuminations de Laval.
Tout à fait, Margot, et ça met des étoiles dans les yeux. Et autre chose qui m'a fait plaisir à découvrir, c'est le studio vidéo de la ville sous la bibliothèque Albert Legendre. Vous le savez, je découvre le territoire et j'ai pu en voir un petit bout de son histoire via le patrimoine audiovisuel. Et en plus, quoi de mieux pour clôturer la visite, on a pu voir une rétrospective de 15 minutes sur les lumières de la ville de Laval, de 1994 à 2019. Je vous emmène avec moi faire un petit bout de cette visite aux côtés de Stéphane Piau.
Bienvenue à toutes et tous pour la visite du studio vidéo de la ville de Laval.
Stéphane Piau, chargé de la valorisation de la mémoire audiovisuelle et vivante au service patrimoine à la ville de Laval.
Vous pouvez être surpris, vous dites on vient visiter un studio vidéo et pourtant là, vous savez où on est, on est à la bibliothèque Albert Legendre. Eh bien oui, le studio vidéo a été créé en avril 81.
Bah oui, c'est un peu un lieu atypique, insolite. On vient visiter un studio vidéo et son d'enregistrement. Et en même temps, on est à la bibliothèque Albert Legendre de Laval.
Le studio a toujours été situé ici pour deux raisons. Studio vidéo, donc, il nous fallait de la place. Vous allez voir, on a 1800 cassettes de 30 minutes. Et puis en même temps, c'est un studio son d'enregistrement. Là où on fait des enregistrements de voix. Tous les maires successifs sont venus ici prêter leur voix.
Afin d'immerger pleinement notre public, je voulais vraiment qu'il s'imprègne de l'histoire du cinéma, de la vidéo, à travers du matériel. Et puis la conception, la technique, comme on a pu réaliser avant. Et on travaille même avec des publics dont j'aurais jamais soupçonné, comme à la prison, les réfugiés, les handicapés. Vraiment des publics très différents. Et donc ça, c'est fabuleux de pouvoir transmettre cette histoire du cinéma. Et puis derrière nous, l'évolution de la vidéo à travers le matériel grand public que l'on pouvait avoir chez nous, comme les cassettes VHS ou du HI8. Et puis du matériel professionnel, comme on a pu tourner des années 80 au studio vidéo.
En Mayenne et à Laval, on a eu la chance d'avoir un grand club de cinéastes amateurs. Et donc de là, eh bien, on a travaillé avec eux, puisqu'ils nous ont donné des vieux matériels de projection. Et là, vous pouvez en voir, ou regarder, vous pouvez même toucher, regarder un peu. Il y en a de 1900 devant vous ici, 1970. Et puis...
Et vous m'en avez dit un mot rapide, vous me parlez beaucoup du format cassette, que les jeunes générations ne connaissent pas forcément, mais qui ont longtemps existé et qui sont des archives très précieuses.
Oui, on en a beaucoup, c'est une vraie richesse pour la ville de Laval, on ne le mesure pas, mais moi j'ai fait un peu le tour parce qu'on se côtoie forcément en tant que réalisateur depuis très longtemps sur la région et même en France. Et je peux vous dire que ça reste exceptionnel parce qu'on avait un grand club qui était ici en Mayenne et à Laval, et on a pu récupérer énormément d'archives. Pour vous dire, les premières, c'est 1910, même avant 1910. Première guerre, seconde guerre, les bateaux lavoirs, le palais d'industrie. Sur les traces d'Alfred Jarry, on a plein de choses. Les grandes inaugurations, les inondations, les fêtes des fleurs, les fêtes de la jeunesse. 1800 cassettes de 30 minutes, imaginez. Dans ce format-là, de 81 à 91, on a réalisé plus de 135 montages. Donc je sais qu'il y a des choses sur le centre de formation du stade. Enfin, plein de choses qui retracent toute l'histoire de Laval.
Première cassette date du studio vidéo, création, vous vous souvenez, avril 81. Ben, c'est la première cassette dans ce format-là, en numatique 3 quarts de pouce. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est de la cassette argentique, hein, de la bande. Donc à un moment donné, c'était bien beau. On les avait depuis plus de 30 ans, mais fallait faire quelque chose à un moment. On a cette chance ici que c'est conservé dans de bonnes conditions. Ni trop humide, ni trop sec. Ça joue beaucoup pour les bandes.
Et ça, c'est avant de s'immerger pleinement, avant de rentrer dans le studio vidéo. Et là, souvent, on a des waouh parce que les Mayennais et Lavallois sont assez surpris qu'on ait un vrai outil de travail comme celui-ci. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un son très atypique, très sourd pour justement faire des enregistrements de voix. Et puis, vous avez vu, on a ressorti du matériel. Justement, je dis souvent aux jeunes générations, ils ont du mal avec ça, d'oublier l'ordinateur. Et pourtant, on faisait des montages. Alors, je leur ai remis en place l'ancienne table de montage, là où je vais réaliser les premiers montages des 1940. Et puis maintenant, on a une grande salle de projection derrière avec un grand écran.
Alors ça, c'est la table de montage dans les années 80. Elle est encore en état de marche. Une fois que j'avais délimité tous mes points, j'appuyais sur ce point rouge et ça allait me monter mes images les unes après les autres. C'est OK pour tout le monde ? Et puis aussi...
Je me permets un petit aparté, vous m'avez montré tout à l'heure et j'aimerais que vous me le décriviez, un projecteur qui date de 1825.
Un projecteur que l'on m'a amené l'année dernière, un cinéaste amateur collectionneur. Il m'a dit tiens, je t'amène un appareil sans trop m'en dire. Puis au fil du temps, il me dit bah écoute, c'est une lanterne magique à pétrole qui date de 1825. Donc si on fait bien le calcul, imaginez, dans 2 ans, ça aura 200 ans, si ni plus ni moins, l'ancêtre du vidéoprojecteur en classe. Et en fait, les enseignants demandaient aux artistes peintres qui peignaient sur plaques de verre de leur retranscrire leurs cours d'orthographe, de portée de musique. Donc voilà, c'était fabuleux, ils mettaient du pétrole et ils projetaient ça sur un drap et donc ils projetaient leurs cours. Et donc là, aujourd'hui, dans le cadre des fêtes de fin d'année, on va passer une rétrospective sur retraçant les 25 ans d'illumination à Laval.
94, Yves Patou sur le jet d'eau. Alors tu vas voir, c'est vraiment petites illuminations. Mais 94, il y avait déjà quelque chose. Il y a une boule à facettes dans le jet d'eau, nanana, mais voilà. Oui, 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 tout à fait.
Une très belle plongée dans l'histoire. Et alors, est-ce qu'on peut visiter ça à d'autres moments ?
Bien entendu, il ne faut pas hésiter. Alors, comment ça marche ? Eh bien, souvent, on vient dans les structures, ils choisissent une thématique à travers les documentaires que j'ai pu réaliser, comme la Seconde Guerre, par exemple. On vient projeter le documentaire, et puis cerise sur le gâteau, je viens avec des témoins qui ont vécu la Seconde Guerre et qui viennent échanger avec le public. Et ça, ça reste des moments émouvants.
Et donc, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Eh bien, il faut appeler le service patrimoine ou moi directement, donc Stéphane Piau, chargé de la valorisation au service patrimoine de la ville de Laval, au 02 43 49 47 59 ou au 06 18 31 12 32 ou sur mon email à Stéphane, stephane.piau@laval.fr. Vous serez toujours les bienvenus. Vous avez bien vu, je suis un passionné, j'aime transmettre un peu toute la richesse, tout le patrimoine audiovisuel que l'on peut avoir grâce à nos cinéastes amateurs. Et maintenant, la chance que les Mayennais et les Lavallois peuvent avoir, c'est que ça reste permanent. Donc avant de s'immerger pleinement dans la visite du studio, eh bien, on passe dans cette exposition, dans ce couloir qui est fait exposer de plein de matériel.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Vous avez vu, je suis bavard, hein, un peu trop passionné.
Bonjour Soazic, vous nous avez rejoint et donc dans quelques instants on écoute votre chronique, un autre écho de l'écho. De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui on va se rendre compte que les médias ne font pas forcément un cadrage sur ce qui pourrait être prioritaire.
Et donc avant de parler un peu de climat à Dubaï, on écoute Henriette qui a sorti son premier EP le 29 septembre. Elle a grandi à Rome et est devenue scénographe à Paris. Maintenant chanteuse-autrice, j'ai choisi pour vous le titre « Aux portes de l'excès ».
Elle se dit le vent dans un coin de sa tête, des mirages de fête. Ici, tout fout le camp, tout fout le camp. Et dans un grand fracas, je hurle sans un son. Personne ne répond. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Aux portes de l'excès. Aux portes de l'excès. Au risque de. Au risque de.
Nous sommes bien de retour dans l'agité du local, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et donc maintenant, on arrive à la fin de cette émission et au moment de la chronique, un autre écho de l'écho. Sois-y qu'on vous écoute.
Eh bien Margot, vous n'êtes pas sans remarquer que la une de nos journaux sur ces deux dernières semaines traitait particulièrement de la COP28, établie pour l'occasion à Dubaï. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'émirat susnommé Dubaï tire 40% de son PIB des énergies fossiles. Autrement dit, faire la COP à Dubaï, c'est un petit peu comme si des assises du cancer des poumons étaient organisées par Philip Morris. Bon, passons. On a donc pu voir une sorte de nouveau Davos, raout mondial des élites et des lobbies, où les grands de ce monde se sont montrés à défaut de prendre des décisions qui pourraient redessiner le futur de l'humanité vers un avenir un petit peu plus serein. Bref, on a donc des discours et des promesses à Dubaï qui font la une des journaux. Alors que, pendant ce temps-là, eh bien, on a un entrefilet dans les journaux qui nous parle de Barcelone.
Mais pourquoi donc voulez-vous que les médias nous parlent de Barcelone, Soizic ?
Eh bien, parce que la capitale de la Catalogne nous montre ce à quoi nous devons nous attendre dans les prochaines années, si les COP, justement, restent du même tonneau que la COP28. Je m'explique. En effet, depuis l'année dernière, la Catalogne n'est plus suffisamment alimentée en eau potable. Malgré l'installation de la plus grande usine de désalinisation d'Europe, Barcelone et sa région n'ont aujourd'hui plus la capacité de s'autosuffire en eau potable. Vous vous rendez compte de ce que cela implique ? C'est en réalité une véritable catastrophe, emblématique de ce qui attend bon nombre de régions touchés par le dérèglement climatique. Je suis désolée, je suis un peu pessimiste, mais ce sont des faits. Alors, bien sûr, la Catalogne a trouvé une solution technique pour pallier ce manque d'eau potable. Figurez-vous qu'elle fait venir chaque jour un super tanker de Marseille, chargé de millions de tonnes d'eau du Rhône, à un prix, bien sûr, 8 à 10 fois plus élevé que l'eau locale. Mais quand même, Margot, vous vous imaginez ce que pourrait engendrer cette perte de souveraineté en eau ? Et je pourrais en dire autant de Mayotte, qui manque également d'eau depuis plusieurs mois et dont on entend très peu parler. Imaginez un peu le topo si l'Ukraine avait été dans ce même cas, ou encore Gaza, ou n'importe quel autre pays d'ailleurs. Vous vous rendez compte de la vulnérabilité de ces pays ? Même si on parlait du pays le plus riche du monde, la dépendance à l'eau reste le pire des cauchemars en termes géopolitiques. Et ce n'est pas tout. Comment se ravitaillera Barcelone quand le sud de la France sera lui-même atteint par ce manque d'eau ? Pensez-vous que la France sacrifiera pour un territoire étranger ? Bien sûr que non. Et c'est d'ailleurs tout à fait compréhensible. C'est notamment ce que fait l'Inde avec la pénurie mondiale de blé suite à la guerre en Ukraine. Terminer les exportations et la mission de nourrir le monde. L'Inde garde son blé pour ses Indiens. Et après tout, quoi de plus normal ? Mais le blé, ça peut encore se remplacer par le riz, par exemple, alors que l'eau, c'est pas possible. Quand on pense que nous utilisons de cette même eau potable pour évacuer nos déjections de nos toilettes, alors que d'autres en Europe, et même en France, quand on considère Mayotte, n'en ont plus, c'est totalement schizophrène. Et pendant ce temps-là, les titres des journaux nous parlent de la COP à Dubaï et d'un Premier ministre dubaïote qui ne voit pas le rapport entre les énergies fossiles et le dérèglement climatique. Les unes des journaux nous parlent aussi d'agences privées qui notent à moins la dette publique de la France. C'est aussi une vanne de Guillaume Meurice qui déchaîne les passions médiatiques parce qu'il faut désormais rire de façon géopolitiquement correcte. Et fin du fin, c'est Hanouna qui porte plainte contre France 2 parce que ce chéri n'a pas eu droit à un reportage hagiographique. Mais de Mayotte ou de Barcelone, rien ou pas grand-chose. Alors comment en est-on arrivé là ? Un renversement de priorité ? Du déni ? De la manipulation ? De la politique politicienne ? Je sais pas. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que l'eau et surtout le manque d'eau, lui, est crucial. Il n'est d'aucune obédience et d'aucune nationalité. Et ça, aucun réseau social, ni aucune intelligence artificielle ne pourra nous venir en aide quand l'eau potable manquera. Pourtant, Agnès, ce qui nous attend si nous n'accélérons pas notre marche vers la sobriété, c'est bien une guerre de l'eau qui se dessine. Et vous savez quoi, Margot ? Dans une guerre, il y a toujours des gagnants, mais aussi beaucoup de perdants. Traduction : si certains continueront à étancher leur soif, ce ne sera pas le cas de tous. Personnellement, je ne suis pas très sereine sur la suite des événements et vous l'avez peut-être remarqué, je suis aussi un peu en colère.
Merci Soizic. Vous proposez également une conférence mardi prochain à l'Université Populaire.
Oui, tout à fait. Alors c'est la deuxième partie d'une conférence qui s'intitule « Sommes-nous dans une faillite démocratique ?» Je rassure tout de suite ceux qui voudraient nous rejoindre mardi. Il n'a pas été utile d'entendre la première partie. Et donc, on s'est interrogé sur l'offre politique, c'est-à-dire en quoi ceux qui nous dirigent finalement font que la démocratie vacille un peu. Et mardi, nous nous interrogerons sur la demande de politique, c'est-à-dire nous les citoyens, pourquoi, comment est-on fatigué et surtout qu'est-ce qu'on peut faire.
Merci Soizic.
18h30 à l'Université Populaire au 40 à Laval, c'est 10 euros l'entrée et vous pouvez venir, c'est libre.
Merci Soizic. La soirée va commencer à 19h sur l'autre radio avec Novorama.
Et oui, Novorama vous présente des groupes émergents indie rock et pop électro.
Et ensuite, c'est The Voice of Cassandre qui prend la suite.
Toujours avec des mixtapes, des playlists de différents artistes, le mercredi, c'est votre soirée musicale.
Exactement, puisqu'elle se poursuit à 21h avec d'Eclectic Jazz.
Et aujourd'hui, l'émission rend hommage à Rainer Silegas Ramirez. C'était une figure de la scène musicale latine jazz. À 43 ans, le 28 novembre 2023, il a été retrouvé mort à son domicile toulousain. Il s'agirait d'un meurtre.
L'agité du local se termine ici. On vous retrouve demain à 12h15. Nous aurons avec nous Sophie Vaillant de la maison d'accueil d'urgence pour femmes Citadelle à Laval. Alors à demain, et d'ici là, bien sûr, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.